Bonjour mes chatons, je vais enfin faire des podcasts. Pour l'instant c'est un peu primaire et pas très agréable parce que j'ai pas encore reçu mon micro. Donc du coup je vais essayer de faire ça assez simple pour la première fois, mais sachez que je prévois de faire un truc plus vivant pour les fois à venir. Allons droit au but si ça vous va. Aujourd'hui je vais vous parler du livre Les animaux aussi ont des droits. Qui est en fait une compilation de trois interviews de Peter Singer, Boris Cyrulnik et Elisabeth de Fontenay. C'est des entretiens qui ont été réalisés par Karine Loup-Matignon avec la collaboration de David Rosane. Karine Loup-Matignon était journaliste et écrivain et David Rosane est ornithologue. Donc ils ont bien sûr travaillé leurs questions, c'est pas du magazine, hein, ça reste un livre travaillé. Alors, pour faire simple, je vais juste résumer rapidement mon podcast d'aujourd'hui. Se déroule dans la suite du cycle éthique animale et antispécisme que je travaille en ce moment sur le blog. Vous pouvez retrouver le premier article qui n'est pas en forme de podcast, mais qui est en tout cas publié et bien construit. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Qui était consacré à Peter Singer sur la libération animale, qui est son livre phare des années 70. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de ce livre, Les animaux aussi ont des droits, parce que justement, donc il y a Peter Singer dans le tas, mais il y a aussi deux autres philosophes. Et j'ai trouvé ce livre assez bien fichu parce qu'il explore en fait trois façons d'aborder l'éthique animale. Qui du coup permet de relativiser sur ce qu'on lit, qui permet aussi de se construire philosophiquement parlant, parce que le problème, comme j'ai déjà soulevé dans mon article précédent, le problème avec l'éthique animale, c'est qu'on se laisse très facilement emporter par ses sentiments, par des passions, donc par des mouvements de l'âme, hein, pour reprendre un peu les termes d'Aristote. Du coup, on n'a pas la tête vraiment sur les épaules et on a tendance un peu à arriver à des conclusions très simplistes, du genre on aime les animaux, on devient vegan et tout le monde se tient par la main et fait la danse dans le monde. Non, c'est pas aussi simple que ça, parce que si c'était aussi simple que ça, tout le monde serait déjà vegan et on serait déjà tous en train de danser en faisant une ronde dans le monde, n'est-ce pas? Je trouve que ce livre est vraiment bien fait. Déjà parce que comme c'est un entretien, ce sont des entretiens, c'est très agréable à lire. C'est-à-dire qu'on peut vraiment ouvrir plus ou moins n'importe où dans le livre et lire 10 pages facile, sans se lasser ni rien. Donc je trouve que c'est un livre qui est agréable à lire dans le train, dans la voiture, dans les transports, dans une salle d'attente, parce que ça fait réfléchir, mais c'est pas non plus un système complexe où il faut avoir des notions dans la tête. C'est souvent le problème de la philosophie. Donc là, ça reste très ludique. C'est très didactique, le langage n'est pas difficile. Donc si vous n'avez jamais lu de philo, si vous n'avez pas ce que c'est que l'éthique, ou l'antispécisme pour vous, c'est des mots barbares, c'est vraiment un livre qu'il vous faut. Je trouve que c'est un livre intéressant parce qu'effectivement, il y a trois personnes qui parlent. Donc c'est trois façons de penser qui sont différentes. Et du coup, c'est enrichissant, je trouve, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec l'un, vous pouvez peut-être être d'accord avec d'autres choses. Enfin, voilà, vraiment, moi je l'aime bien. En plus, le livre est beau. Donc, il coûte un peu cher, hein, 18 euros, il coûte très cher. Mais franchement, ça vaut la peine, le papier est beau, c'est bien écrit, c'est assez grand. Donc, si vous n'aimez pas les choses de c'est parfait. Voilà pour l'aspect pratique. Ensuite, pour l'aspect plus comment dire, de fond, j'ai choisi, donc je vais vous faire en fait trois parties dans ce podcast où je vais vous parler un petit peu des trois parties, donc des trois entretiens. Le premier est l'entretien de Peter Singer qui s'intitule Les animaux libérés. Le deuxième, c'est celui fait avec Elisabeth de Fontenay qui s'appelle Les animaux considérés. Et le dernier, enfin, avec Boris Cyrulnik, s'appelle Les animaux révélés. Hein, donc vous avez les animaux libérés, considérés et révélés. Alors, on va commencer par la partie qui fâche. La partie sur Peter Singer. Si vous avez déjà lu mon premier article sur Peter Singer, vous devez savoir que c'est pas vraiment un auteur que j'affectionne. Vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer. Donc grosso modo, donc je vais vous résumer, hein, je ne vais pas vous faire un détail page par page de l'entretien, ce serait pas intéressant. Je vous invite à l'acheter surtout, enfin si ça vous plaît. Déjà pour commencer, la vision de Peter Singer avec les animaux, c'est une vision utilitariste. C'est-à-dire comment est-ce que je pourrais vous le résumer? C'est-à-dire que, voilà, je vais vous lire Peter Singer le définit lui-même, sera plus simple. Lorsqu'on a affaire à un choix, c'est l'action qui produit le plus grand surplus net de bonheur et de plaisir et le moins de souffrance et de misère que nous devons choisir. Donc, l'utilitarisme, c'est quand même toujours choisir ses actions en fonction de l'utilité des choses, de comment on peut user des choses, bien sûr, en étant toujours dans une démarche respectueuse des autres, comme dirait Kant, ne jamais utiliser l'autre comme un moyen pour une fin, mais toujours respecter son individualité. Enfin, toujours respecter son individualité, mais quand même dans l'utilitarisme, il y a quand même l'utilité, c'est-à-dire qu'on va quand même utiliser les personnes, les êtres, pour notre bien. Hein, donc c'est quand même un terme qui est un peu ambigu. Et donc, Peter Singer dit quand même, les animaux doivent être inclus dans notre champ d'optimisation et que leur souffrance compte. Il y a quand même toujours un rapport, bon ça c'est très anglo-saxon, il y a quand même toujours cet aspect très pragmatique sur les choses. Mais pragmatique du point de vue humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui va m'être utile à moi en tant qu'humain. Donc ça c'est une chose que personnellement j'ai vraiment un peu du mal parce que Peter Singer se pose en très grand défenseur du véganisme. Alors lui, il dit végétarisme parce que ça lui arrive de manger du poisson et des produits laitiers quand il voyage et tout. Mais en fait, son discours est extrêmement repris par les véganes. Et ça reste quand même une position très très extrémiste qui est de dire que, de toute façon, quand on parle des animaux, il faut être végane et un point c'est tout, il n'y a pas d'autres discussions possibles. Mais je trouve que c'est un discours un peu ambigu, parce qu'en fin de compte, c'est être végane, mais sans considérer l'animal comme un être en fait, à part entière. Mais plutôt, en fait, ce qui est très important dans la pensée de Peter Singer, c'est de dire que les animaux n'ont pas des droits absolus. Mais ils ont des droits légaux et des droits moraux. C'est-à-dire que comme ils peuvent souffrir, on a un devoir de ne pas les faire souffrir parce que c'est un peu abusé vu qu'ils souffrent comme nous et que nous, on n'aimerait pas souffrir. Vous voyez, c'est un petit peu en fait biaisé parce que c'est toujours un peu par rapport à l'homme. Hein. C'est toujours quand même penser le véganisme, mais d'un point de vue humain. C'est-à-dire que certains animaux peuvent me ressembler moi en tant qu'humaine, ben dans ce cas-là, j'ai pas trop intérêt à faire la même chose à eux parce que c'est un peu comme si je me faisais à moi. Mais il n'y a pas d'idée que l'animal, quel qu'il soit, a un droit absolu, c'est-à-dire un droit qui se pose de base parce que c'est un être vivant. En fait, c'est un peu un droit qu'il mérite de par sa position d'être souffrant. Et donc c'est important l'idée de souffrance parce qu'il ne parle pas bien et bien, il ne parle pas de douleur, il parle de souffrance. Donc c'est-à-dire une conscience de la douleur et non pas un réflexe mécanique. Qui est que quand on met la main au feu, on retire la main tout de suite parce qu'on a douleur, mais on souffre pas. Par contre, si tu immoles quelqu'un, il va souffrir, quoi. Vous voyez un peu la différence. Alors, ce qui est intéressant chez Peter Singer, c'est qu'il s'oppose à l'idée traditionnelle de la vie humaine qui est sacrée, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que c'est toujours le problème de Peter Singer, moi c'est ce qui me gêne énormément quand je le dis, c'est-à-dire que c'est quand même toujours jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que la vie humaine n'est pas sacrée, oui, dans la mesure où on parle de personnes lourdement handicapées qui n'ont pas forcément conscience de ce qui leur arrive. Hein, il le dit très clairement, hein, par exemple, il dit carrément que dire que des personnes handicapées ont plus de valeur que celles des animaux, c'est une forme de spécisme. Donc pour lui, un être, si on devait choisir entre sauver la vie d'un être d'un humain lourdement handicapé et la vie d'un chat, il faudrait sauver la vie d'un chat parce que l'handicapé, il n'a pas du tout conscience de ce qui lui arrive, donc finalement sa vie a moins de valeur. Elle a moins de valeur que celle d'un animal qui est conscient de ce qui lui arrive. Alors ça se défend, hein, après, voilà, après j'ai pas envie de vous dire, hein, c'est mal ce qu'il dit et tout, mais moi ça me pose un problème, ça me pose le problème de, bah en fait tout est relatif. Ça devient relatif, parce que moi je peux considérer que le chat, il n'est pas forcément conscient de ce qui lui arrive, parce que tous les chats ne sont pas pareils. Lui il a tendance un peu, Peter Singer, à dire en fait il y a les animaux, un peu comme un groupe, vous voyez, genre c'est les animaux, ils sont un peu tous pareils, ils pensent tous pareils. Moi, je suis pas d'accord. Et puis en plus, je pense que l'action, quand on réagit, quand on fait quelque chose, l'action, elle est importante par rapport à l'autre, mais surtout parce que ce rapport à l'autre va révéler quelque chose de soi. Et donc, pour moi, de dire qu'un handicapé lourd est moins important qu'un animal conscient, c'est un peu dire, bah, en fait, je choisis un peu qui j'ai envie de sauver, hop, lui, est-ce qu'il est conscient? Puis, tiens, je vais dire que non. C'est toujours ce côté un peu hypocrite de dire, bah, de toute façon, je vais partir du principe que cette personne est lourdement handicapée, elle comprend pas ce qui lui arrive, lui, c'est un animal, il comprend mieux. Pour moi, c'est un peu remplacer un spécisme par un autre, vous voyez? C'est un peu dire qu'il y en a qui ont plus de droits que d'autres, un peu, on sait pas vraiment pourquoi, lui, il parle de la souffrance, mais enfin bon, il est qui, lui, pour déterminer qui souffre vraiment, qui ne souffre pas? Parce que c'est toujours pareil, voir les animaux comme un gros groupe. Abstrait, qui serait tous les individus seraient identiques, c'est pas très proche de la réalité. C'est déjà c'est faux. Chaque animal a une individualité particulière, a une personnalité, a une façon de se comporter au monde qui lui est propre. Bien sûr, il y a des réflexes qui sont propres à une espèce, mais bon, c'est comme dire, bah il y a les humains, ils se comportent tous pareil, et puis voilà. Ben non, c'est pas du tout ça. Donc voilà, ça moi ça me pose problème, le fait que justement, alors dans son livre La Libération Animale, on sent un peu le discours un peu anti-handicapé qui ressort, mais il le pas trop. Mais alors là, dans l'entretien, je peux vous dire que pour les personnes qui sont sensibles à ce genre de débat, c'est un peu violent quand même, hein. Moi, je trouve quand même que c'est un peu spécial parce que lui pense vraiment qu'on n'a aucune responsabilité morale face à des handicapés lourds. Pour moi, c'est un peu hypocrite, enfin, c'est un peu paradoxal parce qu'il défend que le fait justement que comme les animaux peuvent pas se défendre, il faut le faire pour eux. Mais alors les handicapés qui sont lourdement handicapés, il y a pas, enfin, je veux dire, si on les défend pas pour eux, ils peuvent pas nous parler, ils peuvent pas s'exprimer, ils ont pas de place dans la société pour s'exprimer. Donc c'est un peu pareil en fait. Voilà. Donc déjà, voilà, c'est un peu gênant. Enfin, moi, ça me gêne. Voilà, donc désolé, je vous dis beaucoup mon avis, parce que vraiment ce passage m'a tellement agacée que je peux pas m'en empêcher. Voilà, alors ensuite, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est est-ce qu'on parle du droit ou du bien-être animal? Chez Peter Singer, honnêtement, c'est très ambigu. C'est très ambigu parce que, en fait, il défend un mode de vie complètement vegan, donc sans aucune mise à mort animale. Mais d'un autre côté, si le bien-être est respecté des animaux, il ne voit pas trop d'intérêt à s'opposer à ce qu'on les utilise pour nos fins. D'ailleurs, le problème, donc moi ça m'a posé deux gros problèmes. Le premier, c'est que du coup, bah, tous les animaux ne sont pas égaux pour Peter Singer. C'est-à-dire que, au fin de compte, ce qui est un petit peu ambigu avec lui, c'est qu'il met beaucoup en valeur les grands singes. En gros, les grands singes, comme ils ressemblent beaucoup aux hommes, ben, ils sont un peu supérieurs aux autres animaux, vous voyez? Mais bon, après tout, les chevaux pour l'équitation, les chiens policiers, les chats de compagnie, après tout, ils souffrent pas, donc on peut très bien les utiliser. D'ailleurs, ça m'a un petit peu choquée, parce qu'à un moment, il dit carrément. Les animaux de compagnie ou les chevaux d'équitation et chiens policiers ne sont pas ceux qui souffrent le plus. Bon, ok, je vois pas trop. Je crois que le mec il est jamais allé voir une SPA, apparemment. Alors il nous fait chier pendant 300 pages dans son bouquin La Libération Animale pour nous détailler toutes les souffrances atroces que les animaux subissent dans les laboratoires et tout ça, mais par contre, aller se mettre face à face aux gens qui martyrisent leurs animaux, lui, ça lui pose aucun problème. Donc pour lui, en fait, être vegan, ça te sauve sa conscience, ça lui sauve sa conscience. Mais habiter en appartement avec un chien et le sortir une fois tous les 2 jours, ou avoir un chat et jamais l'autoriser à sortir, jamais vivre sa vie de chat naturelle, c'est pas grave, hein. T'es vegan, ça te sauve un peu ta conscience morale. Enfin, vous voyez, moi ça me gêne un petit peu parce que je trouve que c'est un discours qui est extrêmement hypocrite. Pour moi, c'est vraiment très consensuel. C'est du genre le mec qui dit un peu ce que les gens ont envie d'entendre. En gros, vous êtes vegan, ça vous rachète toute votre conscience. Tout ce que vous faites, c'est parfait parce que vous êtes vegan. Et vous mangez de la viande, bah vous êtes des gros connards. Vous pouvez pas respecter les animaux parce que vous bouffez de la viande. Et moi, ça me gêne parce que je trouve quand même que les choses sont pas aussi simples que ça. Notamment parce que tu peux très bien être végane et martyriser ton animal, sans franchement en avoir conscience. Tout comme tu peux être végane et martyriser les humains, et c'est pas vraiment cohérent non plus. Tout comme tu peux manger de la viande et avoir des animaux et les adorer et leur donner un cadre de vie exceptionnel. Donc, je pense quand même que là-dedans, c'est voir un monde manichéen qui est un petit peu digne d'un mauvais film américain. Et ça me crispe sérieusement quand je dis ce genre de choses. Parce que honnêtement, quand j'ai adopté mon deuxième chat qui s'appelle Ondé, je vous en ai pas encore parlé sur le blog, mais non. J'ai adopté un deuxième chat avec mon copain qui s'appelle Ondé, c'est une petite chatte qui a été abandonnée au refuge par son humaine précédente. Et ben honnêtement, il y avait des chats, c'était juste horrible leur histoire quoi. Il y avait des trucs atroces de chats qui avaient été enfermés dans des maisons qui étaient. Enfin, il y en avait une, c'était une vieille chatte par exemple. La maîtresse s'était suicidée et elle avait laissé à manger ses deux chats, mais il y a un des deux chats qui a pas supporté, qui est mort. Et la petite chatte, elle a survécu genre 3 jours avec le cadavre de son compagnon chat et le cadavre de lui-même, quoi, dans la maison. Et moi, j'étais juste en mode, mais c'est juste horrible, quoi. Enfin, je veux dire, c'est atroce. Et maintenant, apparemment, pour Peter Singer, c'est pas du tout grave. Hein. Tous les chats, tous les animaux domestiques sont heureux. Hein. Les chevaux qui doivent enchaîner des heures et des heures de montage, enfin de montage pour comment on dit, où ils sont montés dans les pistes sans avoir du repos, qui n'ont même pas un contact avec l'humain. Moi je me rappelle parce qu'en fait quand j'étais petite je faisais beaucoup 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 d'équitation, mais c'était en Tunisie donc en fait j'arrivais le matin et je repartais le soir et j'étais montée que 2 heures et tout le reste du temps je m'occupais de mon cheval quoi. Je veux dire, quand je suis arrivée en France ça a été un énorme choc parce qu'en gros t'arrivais à 14 h. À 14 h, tu reprenais le cheval de la personne qui venait de faire son tour de manège avant. Et puis à 15 h, tu le donnais à une autre personne qui le reprenait derrière toi. Et en fait, ton cheval, tu l'avais monté 1 heure. Tu ne l'avais même pas pansé, tu l'avais même pas nettoyé, tu n'avais même pas pu tisser un lien avec lui. J'étais genre, moi, ça m'a dégoûtée et j'ai plus fait d'équitation. En fait, depuis mes 14 ans, je suis plus montée à cheval parce que j'ai eu un accident aussi, mais aussi parce que ça m'a dégoûtée, quoi. L'équitation en France, ça m'a tellement choquée, la façon dont on traitait les animaux, que ça m'a vraiment. Ouais, bah pour le coup, c'était vraiment de l'utilitarisme. C'est-à-dire, le cheval, bah, il était bien utile aux humains, hein, et puis au final, il n'avait pas une vie stérile que ça, quand même. Hein, il avait un box, et puis il avait du foin, donc il n'avait pas à se plaindre. Et moi, ça m'a juste trop choquée. Je trouve qu'en fait, la position de Peter Singer, elle est extrêmement spéciste, dans le sens où il considère que parce que lui, il est un humain, et qu'il a le pouvoir de pouvoir réfléchir à la place des animaux, il peut se permettre de dire ce qui est bien ou pas pour les animaux, alors qu'en fait, ben, il le sait pas. Enfin, déjà, il n'est pas du tout spécialiste du comportement animal. C'est un éthicien, donc spécialiste de l'éthique. C'est pas du tout quelqu'un qui a vécu avec les animaux, voilà. Donc, je trouve que c'est un peu abusé de se permettre de se dire, oh ben non, les animaux domestiques, ils vont super bien. C'est pas grave, on peut continuer à avoir des animaux de compagnie. La question ne se pose même pas, parce qu'il y a des souffrances pires ailleurs. Mais je suis pas d'accord, quoi. Enfin, c'est dingue de dire des choses pareilles. Il faut penser à tout. Non, c'est pas grave, on y pensera après. Bah non. Enfin, ouais. Et donc moi, ça m'agace un peu parce que je trouve que c'est un peu spéciste de dire que finalement, il y a des êtres qui peuvent souffrir, d'autres peut-être, mais on sait pas. Mais c'est pas grave, tant qu'on sait pas, on a le droit de les utiliser. Enfin, pour moi, ça se contredit, vous voyez. Alors, ce qui est étrange, c'est que il se définit lui-même comme éthicien, mais dans l'entretien, il dit bien qu'il est contre l'éthique de la notion d'éthique animale. Il dit que en gros, on ne peut pas avoir. Ah non, merde, excusez-moi. J'ai mélangé mes notes. Il est éthicien, il se considère justement comme éthicien. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que juste après, vient l'interview de Isabelle de Fontenay et qu'il se pose complètement à l'idée d'éthique animale et d'antispécisme. Donc voilà pour Peter Singer. Si vous avez bien, si vous avez pas compris, je ne suis pas très contente de ce qu'il dit. Je vous invite à lire. Il explique. Je trouve que c'est assez intéressant quand même pour pouvoir aussi se remettre un peu en question dans ses propres pensées parce que pour moi ça c'est des discours très très démagogues. Finalement tout reste très superficiel. C'est-à-dire que Peter Singer, moi je trouve que ce qui ressort de son interview, c'est qu'au final il donne beaucoup son avis sur les choses, mais il donne pas du tout des faits. Il donne pas du tout des constructions historiquement solides. Il n'y a pas de méthodologie. C'est un petit peu du moi je pense que ce n'est pas un vrai problème. On va d'accord, mais justifie-toi, mec. Enfin, je veux dire, c'est pas très convaincant. Pour moi, c'est un petit peu tombé dans le discours du moi je suis vegan. Donc en fait, moi j'ai le droit de vous dire comment il faut se conduire envers les animaux parce que vous n'avez pas le droit de me juger vu que vous mangez de la viande. Et voyez, moi, ça, c'est le genre de discours qui m'énerve. Carrément, ça m'insupporte. Bref. Justement, après ça devient mieux, je vous rassure, mais je trouve que c'est très bien du coup de dire, parce que ça va peut-être vous plaire ce qu'il dit, hein. Moi, je vous dis ce que je ressens, hein. Après, c'est mon blog, c'est mon podcast, j'ai le droit de dire ce que je veux, hein, picrotte. Alors, justement, moi ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est la partie avec Élisabeth de Fontenay. Élisabeth de Fontenay est une philosophe qui a été quand même l'assistante de Jean Kélévitch. Pour les gens qui ne connaissent pas Jean Kélévitch, c'est un des plus grands philosophes du XXe siècle, extrêmement moderne, qui a repris énormément Descartes et la pensée de Bergson. Et c'est un philosophe que j'adore d'ailleurs, qui est très très drôle, extrêmement cultivé. Enfin bon, ça a été son assistante, donc bon Dieu la meuf quoi. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le silence des bêtes en 1998, dont je vais vous faire un podcast dans quelques semaines parce que le livre il fait genre 1000 pages et j'ai pas trop le courage de me plonger dedans, mais je vous assure que de lire l'interview ça m'a vraiment donné envie de le lire parce que c'est une femme qui est extrêmement cultivée, qui a une conscience, qui a une science extraordinaire. Elle connaît plein de choses avec une profondeur et une exactitude vraiment magnifique et du coup bah forcément ça donne beaucoup plus de poids à ses propos. Parce qu'elle, elle n'est pas comme Peter Singer, elle n'est pas là à vous dire ah ben, moi je vous dis que c'est comme ça, et puis si je vous le dis et que je suis végane, c'est que forcément c'est ce qu'il y a de mieux, et puis si jamais vous dites le contraire, c'est que vous êtes des gros hypocrites. Excusez-moi, mais comme un argumentation la vie meilleure, bon, je vais arrêter de me vénérer sur Peter Singer parce que ça devient n'importe quoi. Pour parler d'Élisabeth de Fontenay, c'est une philosophe qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressée à la question animale, ça a été l'une des premières, avec Peter Singer et notamment Boris Cyrulnik, justement. Donc autant vous dire qu'en plus étant une femme, on l'a un petit peu ridiculisée quand elle a commencé à s'en occuper. Mais maintenant elle est reconnue comme une des plus grandes philosophes éthiciennes là-dessus. Mais elle, justement, est-elle vraiment éthicienne? Elle a une position extrêmement intéressante d'un point de vue philosophique, puisqu'elle explique qu'elle déteste la notion d'éthique animale. Voilà comment elle le dit. D'abord, la notion d'éthique animale n'a aucun sens pour la philosophe que je suis. Comme le dit Lamartine, on n'a pas de cœur, l'un pour l'homme, l'autre pour l'animal. On a du cœur ou on n'en a pas. Il n'y a pas deux éthiques, l'une animale, l'autre humaine. Il y a éthique ou il n'y a pas éthique. Alors voilà comment elle explique. Pour elle, l'éthique animale, ça n'existe pas. En fait, on devrait parler d'éthique en général. On devrait parler du comportement que l'homme doit adopter envers tous les autres êtres vivants, que ce soit d'autres êtres humains ou des animaux. Faire justement une distinction, c'est déjà une forme, elle ne dit pas le mot spécisme, c'est déjà faire une forme de discrimination. D'ailleurs, elle est contre le fait de comparer les animaux, l'éthique animale, à l'esclavagisme et au féminisme, parce que c'est ce que avait montré Peter Singer, comme je dis dans le premier article, allez le lire, parce que elle trouve que c'est vraiment très. C'est un peu absurde, c'est une façon très empirique de voir les choses. En gros, si t'as un enfant handicapé ou un chien, de qui tu te débarrasses en premier? Alors déjà, franchement, c'est des choses qui arrivent jamais dans la vie. Enfin, franchement, c'est comme, vous savez, le fameux truc, là, on dit, en gros, il y a une œuvre d'art et un chat, tu détruis l'œuvre d'art ou tu sauves la vie du chat. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça, c'est débile. Pour elle, c'est des questions qui finalement amènent à donner une réponse qui est au cas par cas, qui n'a pas du tout de valeur éthique, qui n'a pas du tout de valeur de réflexion derrière. C'est un petit peu, de la bonne conscience absurde. Voilà, hein. D'ailleurs, elle est complètement contre l'antispécisme. Enfin, contre. Hein, elle le dit pas. Hein. Elle conteste la pertinence de l'antispécisme en disant que elle trouve que le problème de l'antispécisme, c'est que on a tendance à faire une simple application de la théorie antispéciste, alors que justement pour elle, il ne faut pas déduire une obligation de traiter les animaux au même titre que les hommes d'une donnée scientifique. C'est-à-dire, alors parce que ça c'est un truc que défend énormément Peter Singer, je vous parle aussi beaucoup de Peter Singer, bah, c'est vraiment lui qui a vulgarisé le terme d'antispécisme. Hein. Parce que c'est vrai que Peter Singer, il explique que, en gros, bah, comme je vous l'ai dit, il y a des espèces qui sont proches, plus proches de l'homme, et donc du coup, bah, comme elles nous ressemblent, bah, du coup, on a des devoirs envers elles. Et justement, Elisabeth de Fontenay, ça énerve énormément parce qu'elle trouve que c'est une façon déjà un super anthropomorphique de voir la nature et des êtres, et que bah, du coup, ça règle pas du tout le problème parce que finalement, on considère pas les animaux en tant qu'eux, mais uniquement parce qu'ils sont liés à l'homme d'une certaine façon. D'ailleurs, elle définit l'homme de cette façon. Un homme est un vivant, naissant, jusqu'à nouvel ordre d'un homme et d'une femme, qui est nommé épinomme, un vivant en lequel et par lequel s'articule le voir, le nommer, l'appeler et le répondre à l'appel. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose qui pourrait être carrément dit dans la Bible, entre parenthèses. Donc voilà, ensuite, pour elle, ce qui la gêne, c'est quand on fait le parallèle entre les humains et les grands singes, parce que c'est faux. Déjà. D'ailleurs, c'est vrai que, par exemple, c'est cette façon très darwiniste de voir le monde, comme quoi l'homme descend des grands singes, et en fait, c'est faux, hein, c'est complètement faux. Si vous avez l'occasion de vous intéresser à ça, c'est faux, 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 archi faux. L'humain ne descend pas des grands singes. Comment dire? Et c'est d'ailleurs même s'il descendait des grands singes, ça ne devrait pas être un argument valide. Enfin, le seul argument pour lequel on devrait défendre les animaux. Et d'ailleurs, ce que j'adore chez Elisabeth de Fontenay, c'est qu'elle parle énormément d'Aristote. Et elle parle d'Aristote d'une façon que je trouve extraordinaire parce que beaucoup de philosophes, pour parler des animaux, ont tendance à casser. Alors, deux philosophes, c'est Aristote et Descartes. D'ailleurs, Peter Singer, il s'en donne à cœur joie dans son ouvrage Libération animale, d'une façon extrêmement superficielle. Il va nous parler d'Aristote en disant, ouais, Aristote, il a dit des trucs méchants sur l'esclave et tout. Ouais, tout le monde le sait que chapitre 4 de la politique, Aristote, c'est des trucs super ambigus sur l'esclavagisme. Mais c'est ambigu, parce que déjà, c'était un peu il y a 2000 ans, tu vois. Donc bon, c'était un contexte politique, un contexte social, c'était très très différent. Et en fait, c'est un peu facile d'appuyer sur Aristote et Descartes parce que les trois quarts des gens qui vont lire Peter Singer, ils n'ont jamais lu Aristote, ils n'ont jamais lu Descartes, mais ils ont des gros clichés dans la tête, du genre Aristote, il est pour les esclaves, et Descartes, il dit que les animaux sont des machines et qu'on peut les écrabouiller. Non, mais voilà, donc super. Enfin, moi, vous voyez, moi, faire de la philosophie en flattant l'ignorance des gens, je déteste ça. Et du coup, ce que je trouve génial chez Elisabeth de Fontenay, c'est que dans ce livre, elle va énormément parler d'Aristote pour montrer à quel point il a une importance dans la façon de considérer les animaux aujourd'hui. Parce qu'Aristote, faut quand même le savoir, c'est le premier à avoir fait de la taxonomie. La taxonomie, c'est la classification des espèces. C'est le premier mec qui a vraiment voulu observer les animaux dans leur habitat naturel et d'essayer de les comprendre de façon scientifique et non pas avec des préjugés. Et d'ailleurs, tous ces livres tous ces écrits de taxonomie ont été traduits en arabe. C'est grâce aux arabes qu'on les a. Enfin, grâce aux gens du Moyen-Orient, aux musulmans, parce que tous les intellectuels de cette époque musulmans ont tout repris de Aristote. D'ailleurs, c'était drôle. J'avais eu un cours là-dessus qui était très drôle. On a eu un prof de fac, je crois qu'il était prof à Alger ou au Maroc. Je sais plus. Je suis désolée, Agadir, je crois qu'il était prof à Agadir. Enfin bref, c'est pas très important. C'était un maghrébin, qui parlait très très bien français d'ailleurs, et qui nous parlait un peu de la classification, de la taxonomie à l'époque, donc au début de l'Empire musulman. Et c'était hyper intéressant et très drôle parce qu'il nous disait qu'en fait, comme Aristote, il vivait pas du tout dans les mêmes endroits que les philosophes arabes de cette époque. Bah, les philosophes arabes, en fait, ils ont traduit des trucs, mais en fait, ça ne savait même pas de quoi ils parlaient parce que c'était des animaux qu'ils n'avaient jamais vus. Donc du coup, il y avait des espèces de mots en grec qui avaient été arabisés, ça voulait plus rien dire. Enfin, et du coup, ils avaient même des fois mal traduit parce qu'ils n'avaient pas compris de quelle plante Aristote parlait ou de quel animal il parlait. Donc en fait, ils traduisaient de travers et en fait, maintenant, ça en rendait compte et c'était assez comique d'ailleurs. Enfin, voilà. Et donc voilà, c'est intéressant. De la part d'Elisabeth de Fontenay, je trouve que c'est vraiment génial. Parce qu'elle en parle très 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 bien d'Aristote. C'est extrêmement accessible. Et enfin, quelqu'un pour arrêter de véhiculer des clichés qui flattent l'ignorance des gens. Hein. Parce que les gens, ils aiment tellement se confier dans leur ignorance et dans leurs préjugés. C'est un truc de ouf, quoi. Bref! Alors. Ce qui est très intéressant, c'est aussi la partie comment dire, je vais y arriver, où Elisabeth de Fontenay parle de l'échelle des vivants. Parce que même si elle ne veut pas parler d'une hiérarchie animale, dans le sens où parce que on descend, les animaux nous ressemblent, ils ont des droits, elle, bien sûr, elle suit quand même cette théorie biologique, biologiste, on va dire, qui est de considérer le monde, les animaux comme un arbre, enfin l'évolution animale comme un arbre connecté, donc chaque branche est connectée. Alors, il y a oh là là, il y a un super documentaire qui s'appelle. Oh là là, j'ai un trou de mémoire. Il y a une émission extraordinaire qui est sortie, un documentaire dans lequel il expliquait justement que l'évolution des animaux, elle était un peu comme un chou-fleur et non pas comme une pyramide comme Darwin l'a fait avec tout au sommet l'animal, l'homme et tout en bas l'animal. En gros, toutes les espèces sont plus ou moins reliées, mais il n'y a pas d'espèce supérieure. Hein. Contrairement à ce que laisse quand même tout en sous-entend Peter Singer. Alors voilà ce que dit Ondé. Excusez-moi, il y a mon chat qui. Ondé, arrête de monter sur les lieux. Oh. Donc voilà comment parle Elisabeth de Fontenelle de l'échelle des vivants. Quand on monte le long de la ligne sans hiatus, qui part du vivant planifié quasi-machine, en passant par celui qui se qualifie. Oh! Excusez-moi. Ondé! Putain! M'a fait tomber mon téléphone cet abruti. Dégage. Oh, les animaux, ils sont chiants quand même des fois. Bref, donc je reviens à ce que je disais. Quand on monte le long de la ligne sans hiatus, qui part du vivant planifié, quasi-machine, en passant par celui qui se planifie, mais dont l'instinct n'a peu ou pas de jeu, pour parvenir à l'animal qui apparaît comme sans plan, tant son instinct est capable de fonctionner à vide, que voit-on? Sinon l'animal s'élever vers un environnement, un milieu d'événements qui ouvre un champ spatial et temporel, de moins en moins orienté vers un but et consistant de plus en plus en interprétation de symboles et en relations inédites. Il y a donc une échelle des vivants, selon la nature ou le degré de leur organisation. Alors, très intéressant, parce que contrairement à Peter Singer, la hiérarchie animale, l'échelle du vivant que établit Elisabeth de Fontenay, n'est pas en fonction de la souffrance, qui est quand même une vision un peu simple du monde, hein. Parce que déjà, c'est quand même super relatif. En plus, c'est drôle parce que Peter Singer, il le dit quand même. Il le dit à un moment, il dit « Oui, en fait, pendant très longtemps, on croyait que les Noirs, ils souffraient pas. Du coup, on les a réduits en esclavage. Ma France a rendu compte qu'ils souffraient. Bah, c'est pareil pour les animaux. » Ben ouais, mais en fait, le mec, il continue à dire quand même, ça le dérange pas, s'empêche plus loin de nous dire « Ouais, bon, il y a des animaux, on pense qu'ils souffrent pas, donc c'est pas grave si on leur bousille la gueule. » Ouais, super, vachement cohérent, le mec. Ce que j'aime bien, c'est justement que cette échelle des vivants, elle se fait sur la nature ou le degré de leur organisation, qui n'est pas une organisation purement cellulaire, purement scientifique, et donc un peu brute et méchante, mais qui se fait quand même sur une capacité de créer et d'évoluer en fonction de cette capacité à faire des symboles, à créer et à tisser un tissu social. Et donc, du coup, ça inclut beaucoup plus d'animaux que la façon de voir chez Peter Singer. D'ailleurs, alors l'autre chose que j'aime bien, du coup, c'est qu'il y a une grande partie sur laquelle, dans laquelle Elisabeth de Fontenay défend énormément Descartes. Elle le dit, hein, je suis contre le lynchage, je supporte mal le lynchage de Descartes. Elle le dit, alors moi aussi je supporte très mal parce que j'aime énormément Descartes et je trouve que le pauvre il s'en prend plein la gueule. Alors qu'en fait, franchement, il a pas dit des trucs si horribles que ça. Enfin, il y a des gens qui disent des trucs pires et on leur a toujours foutu la paix, genre Heidegger quoi. Et Descartes, c'est vrai, bien sûr, non, c'est vrai que dans le discours de la méthode, il dit que les animaux sont des machines et qu'ils ne sont pas doués de penser. Mais il leur a jamais dénié une vie, une âme corporelle et organique. Je veux dire, Descartes ne dit pas que l'animal n'a pas d'âme et que du coup tu peux lui bousiller la gueule et c'est pas grave. Il ne le dit jamais. Mais c'est vrai qu'il parle d'animal machine qui ressemble à une horloge. Il a été beaucoup raillé à cause de ça, notamment par La Fontaine, comme le dit Elisabeth de Fontenay, où il dit, c'est ridicule, vous mettez une horloge à côté d'un chien, vous verrez que c'est pas du tout la même chose. Oui, mais Descartes était un scientifique et Descartes a écrit le discours de la méthode alors que bon, Galilée s'est fait niquer la gueule il n'y a pas très longtemps. Galilée, pour avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil, a quand même été torturé quasi à mort jusqu'à ce qu'il dise qu'il réfutait ce qu'il disait et on lui a foutu la paix après quoi. Et on a brûlé tout ce qu'il avait écrit. Donc Descartes, il n'avait pas très envie de se faire brûler la gueule, hein. Donc d'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Le Traité du Monde, dans lequel il critique énormément la religion, enfin, il parle énormément de la puissance des sciences sur le monde, ce qui était impossible à dire à l'époque, hein, puisque la seule puissance sur le monde c'était Dieu à l'époque, même 1620 et quelques, hein, donc c'est normal. Et donc, du coup, Descartes, ouais, il dit que les animaux sont des machines parce que Descartes défend énormément le point de vue scientifique d'aborder le monde. Donc oui, il a ce rapport un peu froid et très mathématique au monde. Mais c'est pas, voilà, je trouve beaucoup moins spéciste, par exemple, que Peter Singer. Alors, ce que j'adore aussi dans la partie sur Elisabeth de Fontenay, c'est qu'elle nous parle de Rousseau. Parce que Peter Singer, dans La Libération animale, il fait venir tout à la fin, comme un cheveu sur la soupe, l'histoire du spécisme dans l'humanité. Alors, moi, ce qui m'a super énervé, c'est que il surfe complètement sur ces gros clichés de on casse la gueule aux philosophes parce que les philosophes c'est tous des cons. Alors pour moi, ça c'est un peu le complexe de la personne qui a jamais ouvert un livre de philo et qui se sent trop naze parce qu'il comprend pas de quoi les philosophes y parlent et du coup qui se venge dessus quoi. Un peu gratuitement. Moi je trouve que c'est tellement facile de parler de trucs qu'on n'a jamais lus que c'est un peu énervant parce que Peter Singer n'a pas du tout inventé l'antispécisme. Rousseau par exemple est un très grand défenseur du droit animal, mais moi de toute façon Rousseau, je vais vous dire, vraiment c'est un philosophe que j'aime tellement, parce qu'il est d'une modernité, il a aucun préjugé quand il écrit. Il est vraiment, il parle de ce qu'il sent, de ce qu'il vit, il n'y a pas d'hypocrisie dans ce qu'il écrit, contrairement à beaucoup de philosophes. Et c'est pour ça que son reproche d'être hypersensible, franchement, mais c'est pas valide quoi. Évidemment qu'il est hypersensible, mais c'est pas un dieu. Il est hypersensible parce que justement, il est hypersensible et c'est ce qui lui permet de faire une philosophie aussi vivante et aussi merveilleuse. Donc c'est pas un reproche que je trouve. Ça c'est parce qu'en fait les gens, ils ont lu les Confessions. En fait, vous lisez les Confessions et du coup vous détestez Rousseau. Et il faut pas lire les Confessions de Rousseau, à moins d'avoir tout lu ce qu'il a écrit avant. Parce que les Confessions de Rousseau, c'est les Confessions, c'est pas de la philo, quoi. Et d'ailleurs, il l'a pas du tout écrit pour. Il l'a pas du tout écrit pour, enfin, comment dire, dans un but philosophique, c'était vraiment pour soulager sa conscience. Donc c'est pour ça, si vous avez lu Rousseau, parce que vous pensez que vous avez lu Rousseau parce que vous avez lu les Confessions, dites-vous que vous n'avez rien lu de Rousseau et qu'il faut oublier les Confessions et ouvrir un autre livre de Rousseau, parce que franchement, vous priver de cette pensée magnifique, surtout si vous vous intéressez à la nature et aux droits des animaux, c'est vraiment dommage de vous priver de Rousseau. Alors justement, donc justement, ce qui est intéressant, c'est que du coup, Elisabeth de Fontenay se pose la question de qu'est-ce qui pourrait faire le critère de ce qu'il faut, pourquoi est-ce qu'il faudrait respecter les animaux? Pourquoi est-ce que l'homme devrait respecter les animaux? Pourquoi est-ce que l'homme devrait défendre les animaux? Et donc forcément, cette notion, enfin cette question renvoie à la compassion et à la pitié que Rousseau évoque déjà dans nombre de ses écrits. Voilà ce que dit Elisabeth de Fontenay sur Rousseau. Toutefois, c'est Rousseau qui aura posé avant lui la question fondamentale. Et là, elle cite Rousseau. L'homme est assujetti envers eux à quelque espèce de devoir. Il semble en effet que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible. Qualité qui, étant... Oh purée, mais Ondée, tu me saoules! Excusez-moi, mais alors, Ondée! Dégage! Pas possible de m'emmerder comme ça! Bon, si j'avais mon micro, j'aurais coupé, j'aurais fait un montage, mais bon, c'est pas grave. Excusez-moi, mais Ondée m'énerve, alors qu'il y a de l'orage derrière, elle peut pas sortir dehors, et elle veut sortir quand même, et ça m'énerve! Bref. L'homme est assujetti envers eux à quelque espèce de devoir. Il semble en effet que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est, oui, c'est moins malin que parce qu'il est un être sensible. Qualité qui, étant commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être point maltraitée inutilement par l'autre. Quand même, Rousseau qui fait intervenir la notion de compassion, la compassion animale qui serait en fait partagée par l'animal et par l'homme. Donc c'est quand même très fort, hein, parce que la pitié et la compassion sont quand même des qualités qui sont dans la tradition chrétienne, judéo-chrétienne, qui sont attribuées au Christ, donc en fait à des êtres religieux, donc à des humains. Hein. Et Rousseau a quand même le culot de dire, au XVIIIe siècle, c'est en fait quelque chose que les animaux partagent. D'ailleurs, dans son discours sur l'origine des inégalités entre les hommes, il dit un truc très intéressant sur les animaux. C'est justement en observant les animaux et en découvrant qu'ils ont de la compassion et qu'ils peuvent avoir de la pitié envers d'autres animaux que du coup, on doit. C'est forcément une vertu que l'homme a naturellement, mais qu'il a oubliée à cause de la société. Quand même, hein. D'ailleurs, c'est donc la pitié, il l'appelle ça la répugnance naturelle, avoir péri ou souffrir peut être sensible. Et c'est intéressant parce qu'il remarque que les herbivores et l'homme ont des dents et des intestins comme les animaux frugivores. Et du coup, les humains sont en fait plus proches des herbivores que des carnivores. Et d'ailleurs, il se pose la question de savoir si les hommes avaient été uniquement fructivores, est-ce que maintenant, frugivores, enfin, végétariens, quoi, est-ce qu'on s'en serait aujourd'hui à se poser la question du droit animal? C'est très très intéressant. Vraiment, je vous recommande vraiment de le lire. Après, je vois qu'en fait, c'est quand même. Je peux pas trop encore aller loin parce que là, j'en aurais vraiment pour des. Mais enfin, vraiment, c'est très 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 intéressant. Elle parle notamment. De ce que je vous disais, du manque de rigueur méthodologique des défenseurs des animaux, que malheureusement il y a aussi beaucoup de méconnaissances historiques, où on va un peu grossir les traits, bah, un peu comme Peter Singer, hein, on va pas se cacher, d'ailleurs ça se sent un peu dans les interviews, ils s'aiment pas trop tous les deux. Où vraiment on va un peu grossir les traits parce qu'on veut avoir raison. Et donc du coup, mais en fait je peux comprendre les gens qui font ça, parce que quand tu défends les animaux, c'est une cause qui tient à cœur, c'est un sujet sensible, c'est un peu comme le féminisme quand t'es une femme, tu vois, c'est des injustices que tu ressens dans tes tripes, donc t'as envie un peu d'être, de pas avoir d'ambiguïté et que tout soit vraiment dans ton sens. Et du coup ça mène ces gens-là à faire des choses qui sont quand même pas très justes et un peu fausses et pas très rigoureuses. Et du coup, moi, je trouve que c'est dommage parce qu'il vaudrait mieux reconnaître d'être un peu dans l'incertitude ou d'être un peu sceptique sur les données qu'on nous transmet et tout, sans pour autant dire que c'est faux, mais je trouve que c'est plus honnête, quoi. Et c'est un peu gênant parce qu'en fait, quand il y a de la mauvaise foi, bah, ça invalide un petit peu le combat hein, qui se fait. Alors que finalement, c'est bien qu'il y ait de l'ambiguïté dans ce qu'on défend, c'est bien qu'il y ait des choses dont on ne soit pas sûr, c'est bien d'avoir toujours des choses à lire, à découvrir et tout, parce que justement, ça fortifie la pensée, ça pousse toujours à aller plus loin. Et du coup, moi, c'est vrai que ce qui me gêne énormément, franchement, dans le discours antispéciste aujourd'hui, et dans le discours vegan, c'est que beaucoup de gens qui parlent, ils parlent un peu sans avoir des données. Et une connaissance historique du droit des animaux, qui n'ont pas de connaissances scientifiques, et qui vont juste partager des articles qui des fois racontent n'importe quoi, qui vont extraire du contexte des trucs pour pouvoir avoir raison, et ça c'est le pire quoi. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein. Les gens qui vont démontrer qu'on peut pas vivre sans viande par exemple, ou je sais pas, qui vont démontrer des trucs débiles, comme quoi les animaux sont inférieurs donc on peut leur niquer la gueule, enfin oui, des trucs comme ça, c'est n'importe quoi aussi. Hein. Dans les deux sens, c'est agaçant. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même Elisabeth de Fontenay le met en valeur, voilà, et elle dit, c'est un petit peu dommage, elle le dit comme ça. J'ai beaucoup de réticences à l'égard de son manque de précaution méthodologique, de la manière dont. Alors là, elle parle d'un mec qui assimile le sort des animaux en boucherie aux juifs, hein, exterminés par les nazis. Dont il construit une analogie entre une chronologie longue de plusieurs millénaires et une chronologie courte qui excède à peine 4 ans, et de cette façon dont il dresse un parallèle entre une histoire de lutte pour la survie, la chasse, l'élevage, l'abattage, et une pure histoire de haine raciale. Oui, parce que c'est vrai que. Parce qu'en fait, voilà, le problème quand même, je trouve que Peter Singer balaye d'un coup de main, vraiment, il balaye du revers de la main, c'est le fait que finalement, tout l'héritage traditionnel qu'on a là-dedans, enfin, de la considération animale, il s'en fout royal, quoi. Vraiment, lui, c'est juste, il n'y a pas de question à se poser, il faut devenir vegan et un point, c'est tout. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'on est quand même 7 milliards sur Terre, et tu peux pas dire à 7 milliards d'humains qu'il faut devenir vegan parce que c'est comme ça. Parce que tu seras mieux moralement, parce que les animaux, ils souffrent. C'est pas suffisant, parce que si c'était suffisant, on serait tous vegan à l'heure qu'il est. Et alors, ce que j'aime bien, alors là, comment dire, non, ouh là là, Elisabeth de Fontenay ne va pas plus loin là-dedans, mais c'est justement quelque chose qui est repris dans la partie avec Boris Cyrulnik, qui va énormément s'interroger sur les racines de ce mépris qu'on a envers les animaux dans notre culture traditionnelle. Et il va s'intéresser notamment au fait que déjà dans le langage, on a une façon de parler de l'animal qui est extrêmement objectivante. Hein, on dit ça pour un animal. Un animal mort est une carcasse et non un défunt. Par exemple, en anglais, moi, un truc qui me choque énormément, lui, il le dit pas, c'est mon exemple, mais en anglais, par exemple, les animaux, c'est it. It, c'est le truc, c'est le pronom qu'on utilise pour la chose. Il y a Ondé qui m'emmerde, hein, c'est pas possible. Hein. Casse-toi, Ondé, casse-toi. Oh, je vous jure, les animaux, hein, quand ils ont un truc pendant la tête, hein. Surtout Ondé. Non, mais tu sortiras pas, Ondé, il pleut. Ah! Ah! Donc, oui, je disais quoi? Je sais plus. Oui, en anglais, on dit it. D'ailleurs, je me rappelle, un coup, j'étais en cours d'anglais en master, un enfin, cours un peu bidon. Et en fait, moi, en anglais, je dis jamais it pour un animal, je dis he ou she. Parce que je trouve que c'est juste pas possible de dire it, quoi. Enfin, c'est pas une chose, c'est un être vivant. Et je me rappelle, j'avais parlé de mon chat, et j'avais dit he is very smart, ou un truc comme ça, mais il est très intelligent. Et la prof m'avait repris, elle m'avait dit it, c'est it. Et je lui ai répondu, non, mais moi, je dirais pas it. Elle me dit, oui, mais c'est comme ça en anglais. Je lui dis, oui, mais non, mais c'est un être vivant, moi, je dirais he. Et ça m'avait énervé. Et d'autant plus qu'après, elle m'a dit, non, mais en anglais, c'est comme ça. Et moi, je lui ai dit, non, c'est pas vrai. Parce que sur Internet, moi, je suis plein de gens qui sont véganes ou qui, qui aiment les animaux, ou même des gens qui s'en foutent, mais qui disent pas it et qui disent he et she. Justement, ça commence à changer dans le langage anglais. Voilà. Et un autre truc qui m'énerve dans la langue française, par exemple, on dit une bête. Et d'ailleurs, pour dire quelqu'un qui est stupide, on dit qu'il est bête. Mais que c'est bête de dire ça! Non mais c'est vrai, je veux dire, une bête, c'est dingue! Ou alors, vous savez, cette expression têtu comme un âne, ou être une grosse vache, ou être, je sais pas quoi, enfin, être un gros porc, pour dire que quelqu'un est répugnant, mais enfin, franchement, mais tout ça devrait être enlevé du discours, quoi! D'ailleurs, c'est ce que dit Boris Cyrulnik, qui dit, mais en fait, tout ça, c'est des conditionnements. Parce que tout ça, c'est en fait, toutes ces expressions et tout ça, c'est inconsciemment dans la tête de l'enfant, c'est assimiler l'animal à des choses négatives, et donc à le rendre, à trouver ça normal finalement, de considérer que l'animal est inférieur à l'homme, parce que à cause de toutes ces expressions, parce que finalement, mine de rien, toutes ces expressions répétées tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah au final, on va finir vraiment par inconsciemment considérer que, après tout, l'humain, il est supérieur à l'animal. Parce que l'animal sert de faire valoir à l'homme. Parce que, en général, c'est quand même pas très positif les expressions avec les animaux. Non. Et déjà, le fait d'arrêter de pointer les animaux du doigt en disant une carcasse et pas dire un être. Enfin, il est. Enfin, voilà, et pas dire un défunt, déjà, ça change tout. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il parle énormément de la culture. Et des représentations des animaux, où il fait, par exemple, le facteur culturel qui est de considérer que tuer un animal, c'est pas grave par rapport au fait de tuer un humain. Je vous dis un exemple très con, mais moi je trouve que c'est vraiment n'importe quoi qu'on n'enseigne pas aux enfants à quel point on était tarés autrefois à massacrer les chats, quoi. Je veux dire, ça c'est un truc qu'on devrait leur expliquer, qu'il faut surtout pas le faire, qu'on a été débiles de faire ça. Enfin, vous voyez. Et par exemple aussi, il cite Marguerite Yourcenar qui dit que manger de la viande, c'est digérer des agonies. Donc c'est très intéressant. Il revient énormément sur le fait que, en fait, on n'a peut-être pas assez de rapport avec les animaux. Traditionnellement, on considère un peu les animaux comme un truc un peu à part, tu vois, genre qu'on utilise juste parce que tu as envie de te sentir bien, tu donnes une caresse à ton chat ou à ton chien, mais au final, il n'y a pas de vrai, véritable lien affectif, alors qu'en fait, développer un lien affectif avec un animal, c'est créer, avoir de l'empathie et donc créer un lien beaucoup plus fort qu'un simple lien utilitaire. Et donc, du coup, il trouve qu'on devrait encourager les rapports entre les animaux et les humains. Et en fait, c'est un peu son idée de éduquer pour déconditionner. Parce que finalement, tout ce rapport à l'animal qu'on a aujourd'hui, qui est extrêmement complexe, dans le sens où on les aime bien, mais à la fois, ça ne me dérange pas de les massacrer, c'est un conditionnement où toute la société nous conduit à penser que c'est pas grave. Alors qu'en fait, quand on réfléchit un petit peu, si ça l'est, et c'est ce qui est le plus grave, c'est finalement d'être conditionné. Pour dès l'enfance, penser que l'animal est là pour notre propre plaisir. Et en fait, sensibiliser les enfants et sensibiliser les gens au fait que les animaux souffrent, et non pas seulement souffrent, mais aussi aime, meurt, pleure, qui nous ressemblent, quoi. Enfin, qui nous ressemblent, ou alors les humains leur ressemblent plutôt. Ben, en fait, c'est déjà améliorer le système. Par exemple, aussi, arrêter de considérer les animaux comme des trucs qu'on peut utiliser pour faire des expériences, parce que bah, c'est plus pratique. Franchement, au lycée, le nombre de rats qui sont disséqués, mais vous vous rendez pas compte, parce que nous, c'était genre un rat une fois dans l'année. Mais en fait, c'est des milliards de rats qui meurent comme ça, tous les ans. Des grenouilles. Alors, il fait aussi référence une. Bon, alors, il le dit pas comme ça, et moi, c'est ce à quoi ça me fait penser, mais un peu une banalisation du mal animal. C'est-à-dire que finalement, toutes les actions mauvaises sur les animaux sont normalisées et ont déculpabilisé les gens sur les souffrances causées aux animaux. En mode, c'est pas vous qui prenez la décision, donc en fait, c'est pas vraiment comme si vous les avez tués. Donc, concrètement, quand vous décidez de manger des nuggets chez KFC, et que les animaux ils ont été tués dans des conditions atroces, bah après tout c'est pas vous qui les avez tués, donc vous n'êtes pas vraiment responsable, et puis de toute façon vous n'avez pas envie de le savoir. Donc c'est pas grave, puisque si vous le savez pas, vous êtes innocent. Enfin vous voyez, il y a toute cette démarche un peu hypocrite. D'ailleurs il fait référence aussi à la surconsommation, qui est en fait la surcon la surcon la, 1, 2, 3, la surconsommation aujourd'hui, le système de consommation extrêmement violente conduit à la soumission, enfin c'est une sorte de soumission idéologique des gens qui, pour consommer, vont finalement adhérer à des choses atroces. S'ils réfléchissaient 2 minutes, je pense pas qu'ils seraient d'accord en fait. Mais il y a une espèce d'hypocrisie qui se fait parce que bah, c'est notre propre plaisir, c'est un confort. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il dit, c'est pas que pour les animaux, hein, c'est un peu pour tout. D'ailleurs, ce qui est très intéressant chez Boris Cyrulnik, c'est qu'il va pas parler uniquement du mal animal, il va dire que finalement, les gens qui en ont rien à foutre que les animaux souffrent, mais ils s'en foutent que les humains souffrent aussi. Hein. Moi, je me rappelle d'une anecdote qui m'avait beaucoup choquée. Quand j'étais vendeuse, il y avait une collègue qui travaillait chez l'homme, dans la mode homme, à l'étage en dessous de là où je travaillais. Et un coup, elle m'avait dit, mais t'as un chargeur d'Apple? Je lui dis, non, j'ai pas d'Apple. J'aurais jamais d'iPhone. Bon, j'en ai eu un entre-temps, mais on me l'avait donné. C'est pas pareil. Et elle m'a dit, ah bon, pourquoi? Et je lui ai dit, bah, parce que ils tendent des filets anti-suicide dans leurs usines. C'est les enfants qui soudent Enfin, ils soudent les machins, hein, les circuits. Et moi, j'avais dit, moi, ça m'avait trop traumatisé quand j'ai vu un reportage là-dessus. Et donc, concrètement, je peux pas cautionner ça. Et elle m'a quand même répondu, oui, bah, c'est bon, ils ont pas à se plaindre. Eux, au moins, ils ont du travail. Voilà. Et là, je l'avais regardé, je lui ai dit, mais t'as un enfant de 7 ans, t'aimerais qu'il soit en train de souder des circuits? Elle me dit, oui, bah, au moins, il serait utile. Oh, je vous jure. Oh là là. Ou comme la vendeuse récemment qui m'a sorti, je lui dis non mais vous savez je peux plus prendre des trucs testés sur les animaux, j'étais dégoûtée par un reportage que j'ai vu, et elle m'a sorti, oh non mais moi je cherche même pas à savoir, ça me fait trop de mal. Bon vous êtes sérieux les gens là? Oh pauvre chérie, ça lui fait trop de mal, alors elle préfère consommer, continuer à consommer des trucs qui provoquent de la souffrance et des trucs, mais c'est pas, enfin bon. Bref, d'ailleurs il appelle ça... Enfin, dans cette histoire de finalement pas vouloir chercher plus loin que le bout de son nez pour être confortable dans sa façon de consommer, dans le livre, ils appellent ça, c'est un chapitre qui s'appelle Le bonheur de se soumettre. Et je vais vous lire un extrait. Dans certains cas, ces hommes et ces femmes sont de simples exécuteurs d'ordres sociaux. Ils parlent des laboratoires, abattoirs ou élevages industriels. Du coup, ils ne se sentent absolument pas coupables de commettre le pire. Le fait d'obéir déculpabilise et évite le questionnement moral. En revanche, d'autres le vivent très mal et souffrent de ce qu'ils sont obligés d'infliger aux animaux. Leur responsabilité morale est engagée. Le système broie ces hommes et ces femmes en même temps que les animaux. Et là, il parle du témoignage d'une étudiante vétérinaire qui avait été en stage dans un abattoir et qui disait « Moi-même, je deviens progressivement un petit rouage de ce monstrueux automatisme de la mort. Au bout d'un certain temps, ces manipulations monotones commencent à devenir automatiques. Mais elle reste aussi très pénible. Menacée d'étouffement par le vacarme assourdissant et l'indescriptible horreur omniprésente, la compréhension reprend le dessus sur les sens hébétés et se remet à fonctionner. Faire la différence, remettre de l'ordre, essayer de discerner. Mais cela est impossible. Voilà, alors après, il parle aussi pas mal. De la technologie, il parle aussi, il y a un gros groupe, une partie, quelques pages sur la folie animale, c'est-à-dire qu'un animal peut devenir fou. Et il y a beaucoup de cas où on voit qu'un animal devient fou. Moi, je vais vous dire un exemple très simple, c'est les chevaux. Parce que l'autre abruti qui nous dit que les animaux de compagnie, les chevaux des États-Unis, ils souffrent pas, ils souffrent moins que les autres. Il y a un moment où les chevaux, je sais pas si vous avez déjà vu un cheval dans un box qui est statique et qui n'arrête pas de bouger la tête de chaque côté ou qui fait bouger ses lèvres dans le vide, mais genre tout le temps. En fait, ça, c'est un symbole, ça veut dire que l'animal s'ennuie. Les chevaux sont des êtres extrêmement sociaux et le fait d'être dans un box toute la journée, à pas pouvoir brouter et à pas pouvoir échanger avec ses congénères, c'est extrêmement, extrêmement traumatisant pour un cheval. Et donc non, un cheval qui vit dans un box toute la journée, qui peut jamais aller dans un pré et qui peut jamais socialiser, n'est pas un cheval heureux, c'est pas possible en fait. C'est contraire à sa nature. C'est comme si vous, on vous enfermait dans un box toute la journée, on vous interdisait de manger, juste à des heures très précises et des granulés, et qu'en plus vous ne pouviez jamais, jamais, jamais voir vos congénères que quand vous devez faire des trucs pour les autres, enfin pour d'autres êtres que vous ne connaissez pas, qui sont pas comme vous. Moi je pense que ça rendrait fou un peu n'importe qui en fait. Voilà. Du coup, je voulais faire un podcast que d'une demi-heure et je vois que ça fait 55 minutes que je parle non-stop. En conclusion, je trouve ce livre très intéressant parce qu'il fait énormément réfléchir sur en profondeur sur notre rapport avec les animaux. Je trouve que sa position du fait, enfin, de ne pas être aussi simpliste que beaucoup de personnes qui écrivent des livres sur les animaux, de vulgarisation qui conduisent à dire la société est mauvaise, les philosophes sont des cons, mais vous, vous allez devenir vegan, donc vous allez sauver le monde. C'est pas aussi facile. Et puis, d'ailleurs, Cyrulnik fait beaucoup référence au fait que le problème du végétarisme, c'est un problème quand même d'occidentaux. C'est un problème d'occidentaux riches et éduqués. Parce que quand on passe sa journée à crever la dalle ou à bosser comme un taré pour pouvoir s'héberger et se nourrir, bah honnêtement, la souffrance animale, c'est pas la priorité, quoi. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on doit sensibiliser les gens avant qu'ils soient adultes et que c'est important de commencer à en parler aux enfants. Hein, expliquer aux enfants que le lion, s'il tue la gazelle, il n'est pas méchant, c'est parce qu'il a besoin de se nourrir, mais que nous, on a le choix entre tuer la gazelle ou manger un bol de salade, et que si on n'est pas foutu de tuer la gazelle de ses propres mains parce qu'on crève la dalle, et ben on bouffe la salade et on ferme sa gueule. Voilà. Bon, c'était l'éthique animale par Ferrier résumée en 3 secondes. Non mais enfin voilà, je trouve que c'est un livre très intéressant. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui s'intéressent à la philo, mais qui ne sont pas philosophes ou qui n'ont jamais lu philosophie. Et je trouve que c'est un livre extraordinairement bien fait pour commencer à s'intéresser à ça. Donc vraiment, je vous recommande vivement de le lire. C'est vrai que 18 euros c'est cher, mais honnêtement, le livre est beau et c'est bien. Enfin, la typographie est jolie. Et enfin, la typographie, je sais pas comment on dit. Enfin, vous m'avez compris, la taille des lettres. Et c'est vraiment chouette, c'est un livre qui est bien fait, qu'on peut feuilleter. Moi d'ailleurs, je vais le refeuilleter de temps en temps, juste comme ça, vous lisez 3-4 pages, des questions qui vous intéressent et tout. C'est assez agréable. Et du coup, moi je trouve que c'est sympa de faire ce genre de livre, surtout avec trois façons de voir les choses qui se complètent ou qui s'opposent, mais toujours avec beaucoup de réflexion et beaucoup de bienveillance. Et c'est comme ça, je pense qu'on va pouvoir vraiment faire évoluer le discours sur le droit des animaux dans le monde. Enfin, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. La prochaine fois, je vous promets que ce sera un petit peu plus didactique, qu'il n'y aura pas moi en train d'hurler sur Ondée parce qu'elle fait tomber mes livres et parce qu'elle veut absolument sortir. Et je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous aura plu, et puis bah, je vous dis à bientôt.